Bon, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, ça va être le cours le plus difficile de tous mes cours. Pas seulement pour vous, mais aussi pour moi, parce que je n'ai jamais fait les maths en français, donc vous pouvez m'aider. Mais c'est un sujet fascinant. Nous allons parler du prix de l'avenir. Mais c'est aussi compliqué, malheureusement. Ou bon, ça peut aussi être une joie, en fait, que pour les gens qui aiment les maths. Je suppose que vous suivez tous ce qui se passe au COP, à Le Bourget, maintenant. Et je crois qu'on a beaucoup de raisons pour être préoccupés, en fait. L'importance de tout ça que nous faisons, nous le verrons dans des dizaines d'années, peut-être d'abord dans un siècle ou un demi-siècle. C'est tout l'avenir de l'humanité, en fait. On va lutter avec les changements climatiques pendant des dizaines et des centaines d'années. Beaucoup des effets, on les verra dans 200-300 ans. La levée de la mer, ça prend autant de temps. Nous causons aujourd'hui une levée de la mer qui va prendre des centaines d'années. Et ça va sûrement changer la vie, mais nous ne savons pas très bien comment. De toute façon, une des questions qu'il faut se poser, c'est combien et comment apprécions-nous les effets, les coûts qu'on va avoir dans une centaine d'années. La première fois que je me suis mis à penser sur les taux d'actualisation, j'étais dans un débat sur un projet, ça n'a pas d'importance lequel, mais vous imaginez un grand projet, ça peut être comme les projets nucléaires, les projets de changement climatique, des grandes constructions qui vont durer des années. Et on était dans un débat, et disons que c'était un peu le cadre coût-bénéfice. Donc, il y a un projet, il y a des coûts, il y a des bénéfices. Les coûts sont la construction, l'énergie, le travail. Et un problème environnemental, disons les déchets, par exemple. Et moi, j'ai démontré qu'il y avait les coûts de environnementaux était plus grand qu'on avait pensé avant. Et donc, mon adversaire dans le débat, disons, a dit, c'est pas grave, on va tout simplement repousser le traitement de ces déchets de l'année 2030 à 2040 et on peut utiliser les mêmes chiffres. Parce qu'avec le taux d'actualisation, le coût qui était deux fois plus grand, et revenait au même, parce que 10 ans encore plus d'actualisation, avec un taux d'actualisation de 7%, ça coupe en moitié les coûts. Donc moi, j'avais démontré que les coûts étaient plus grands, et la réaction était, ça fait rien, on attend 10 ans, ça revient au même. Et j'étais un peu déçu. Disons, donc j'ai pensé il faut bien étudier qu'est-ce que ça veut dire l'actualisation, qu'est-ce qu'elle implique philosophiquement. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une feuille de un papier? Oui. Voilà, tu en as suffisamment? Oui, parce que. En fait, je peux prendre la moitié. Je vais prendre la moitié, ça suffit pour l'illustration. Merci. Alors, je prends une feuille de papier et je le déchire, soit simplement je le plie comme ça. Je le plie une fois et je le plie deux fois, trois fois. Qu'est-ce qui se passe si je pouvais le plier 40 fois? Je ne suis pas suffisamment fort, mais combien d'épais serait le pile de papier, si je pouvais le plier 40 fois. Est-ce que quelqu'un peut deviner? Jusqu'ici? Jusqu'au toit? Il faut le calculer. Il y a sûrement plein de gens qui peuvent le calculer ici. Je vais vous dire, c'est jusqu'à la Lune. Parce que, voilà, si chaque fois que je l'applique, ça va de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 et 1024, c'est 10 fois. Après 10 fois, c'est 1000. Donc après 40 fois, c'est 1000 milliards. Et si le papier, bon, ça dépend de l'épaisseur, mais si c'est plus ou moins autant de mètres, c'est plus ou moins la distance à la Lune. Ça, c'est la croissance accumulée. La croissance accumulée, c'est très puissante. Et le taux d'actualisation, c'est plus ou moins l'inverse. C'est l'image que je veux que vous mainteniez de cela. Donc, le taux d'actualisation, l'idée, c'est qu'un peu, et je vais être beaucoup plus précis dans quelques minutes, mais un peu, c'est que si nous sommes 5 fois plus riches, un coût de quelque chose, c'est plus ou moins comme si c'était le cinquième. Donc, c'est un peu l'inverse. Mais là, je vais être beaucoup plus précis dans un moment. Et le climat, c'est l'externalité le plus grand que nous avons connu dans l'histoire humaine. Maintenant, il y a de la recherche qui démontre que c'est plus grave que ce que nous avons pensé, mais c'est sûrement un pourcentage très important du PIB dans l'avenir. Il y a des grandes incertitudes. Des grandes incertitudes qui sont de sciences naturelles. C'est par exemple la formation des nuages, l'incertitude qui autour de l'échappement de méthane qui peuvent être très accélérées parce que plus de chaleur, plus ça fond les glaces, la permafrost, et plus il y a d'échappement de méthane et donc plus de réchauffement. Il y a aussi le renforcement des effets, il y a par exemple la glace au pôle, quand ça fonde, ça devient plus noir au-dessous de la glace. La glace est blanche, elle reflète l'énergie solaire. La Terre noire ou la mer est plus noire et ça capte beaucoup plus de l'énergie solaire. Donc il y a beaucoup de ces effets qui donnent une incertitude. Quelle croyez-vous que l'incertitude le plus grand dans les calculs pour estimer le coût du changement climatique? C'est en effet le taux d'actualisation. C'est dans notre domaine des économistes, c'est pénible, mais c'est là en fait l'incertitude. Nous ne savons pas ou nous ne sommes pas d'accord sur le taux d'actualisation. Alors nous avons un projet ou un coût, un bénéfice V dans l'avenir. Et le coût aujourd'hui, c'est V divisé par le taux de croissance, disons, le taux d'actualisation. Et cet effet, c'est énorme. Si, par exemple, on a un coût d'un trillion de dollars, en 400 ans, ça serait quelques milliers de dollars aujourd'hui. Le coût d'un ordinateur ou quelque chose, une bicyclette. Pour beaucoup de gens, ça paraît pas raisonnable, disons. Et en plus, si le coût d'un trillion apparaît dans l'année dans 500 ans, c'est plus de 3 000 $, c'est 2 centimes. Et si on avait eu 6% d'actualisation, de taux d'actualisation, au lieu de 5%, ça serait 0,02 centimes. C'est-à-dire que la différence entre 5 et 6%, c'est combien? Ça paraîtrait comme si c'est 20% de différence entre 5 et 6, n'est-ce pas? Mais c'est en fait c'est un facteur 100 fois plus important. Donc la différence est très grande. L'importance de ce taux d'actualisation est énorme. Et malheureusement, nous ne savons pas si c'est 1% ou 10%. C'est très difficile. Il y a des gens qui disent qu'ils savent, mais il y a des autres qui savent quelque chose d'autre et on n'a pas la même opinion. Donc c'est un gros sujet de débat et d'analyse. Si on mettait $1 dans la banque aujourd'hui, ça devient $2 en 6 ans. C'est calculé avec 12%. On n'a pas autant de taux d'intérêt aujourd'hui, mais voyons. Si on avait donc 12% d'intérêt, on peut dire que $2 en 6 ans, c'est le même que $1 aujourd'hui. C'est l'idée de taux d'actualisation. Donc, si on avait cela, ce taux d'intérêt, combien devient $1 en 24 ans ou en 240 ans? Vous voyez, si quelque chose se double ici en 6 ans, en 204 ans, ça double 40 fois. C'est un peu comme mon papier là, que je pliais. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que l'économie mondiale devient 10 fois plus riche? C'est difficile, mais c'est faisable. Mais s'imaginer que l'économie mondiale soit 1000 milliards plus grand qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile. Qu'est-ce que ça implique? À mon avis, ça implique que nous ne pouvons pas avoir 10% de croissance pendant des centaines d'années. On revient à ce sujet-là. Voilà, c'est le taux de croissance. Vous voyez, déjà après 60 ans, on est 1000 fois plus riche qu'aujourd'hui. Et après, ça devient voilà, de pire en pire. Avec des centaines d'années, on devient impossiblement riche. Et le taux d'actualisation, c'est juste l'inverse de cela, c'est-à-dire que si on devient plus riche qu'on devient, un coût devient moins important. Voilà. Je vais parler, d'abord je vais expliquer, il y aura 15 minutes de mathématiques. Après, je vais revenir sur un peu les implications, qu'est-ce que ça veut dire, et est-ce que le taux de croissance peut continuer toujours, un peu sur des autres aspects, par exemple si le taux d'actualisation ne soit pas constante, des aspects de comportement, l'économie de comportement, et finalement les prix relatifs et les taux de croissance qui sont différents d'un secteur à l'autre. Et après, je donnerai la parole à mon ami Roger. C'est en fait, nous sommes des amis grâce à ce sujet. Ça peut paraître drôle peut-être, mais c'est comme ça qu'on s'est connus. On avait juste les mêmes idées sur le taux d'actualisation dans les différents secteurs. Et on a trouvé qu'on a publié des articles presque très pareils, sauf que Roger l'a fait en français, moi je l'avais fait en anglais. Bon, d'abord, là, donc l'explication mathématique. Donc, on va supposer, ça peut paraître un peu sèche en fait, mais on va supposer que cela explique notre appréciation pour tout l'avenir. Il y a ici, il y a notre consommation chaque année. Ici, il y a l'utilité de cette consommation. Et ici, il y a déjà un taux d'actualisation, de l'utilité même. Donc, on va voir qu'il y a deux raisons pour actualiser les coûts dans l'avenir, ou les bénéfices. C'est soit le ROE, ici, soit la courbure de la fonction de l'utilité. On peut, si on veut, on peut le penser avec une mathématique discrète. Donc, on peut dire que c'est la somme. Chaque année, il y a une consommation, il y a l'utilité de cette consommation, et on l'actualise chaque année. Donc, tout l'avenir, c'est donc la consommation cette année et l'utilité que nous avons. Penser à ce qu'on a mangé déjà, le petit déjeuner, et toute l'année ici. Et donc, il y a l'année prochaine, mais l'année prochaine, on l'actualise. C'est-à-dire que l'année prochaine est un peu moins important qu'aujourd'hui. Et c'est déjà, donc, RO, c'est l'actualisation à cause simplement du temps. Et c'est-à-dire qu'on se méfie un peu de l'avenir, où l'avenir est moins important. Il y a des gens qui considèrent, des philosophes qui considèrent que c'est faux, que l'avenir doit être aussi important que le présent. Il y a beaucoup des parents qui disent qu'en fait, pour eux, leurs enfants sont plus importants qu'eux-mêmes et que... Bon, ça serait un rôle négatif, tout simplement. Il y a une raison qu'on dit que toute la Terre peut disparaître. On pourrait avoir une collision avec un grand astéroïde et ça peut tous disparaître. Donc, ça serait une raison pour avoir un certain taux d'actualisation de l'utilité, parce que si le monde va disparaître de toute façon dans l'année 2030, il n'y a pas beaucoup de raisons pour se préoccuper pour le changement climatique. Mais on sait que ça n'arrive pas très souvent. Donc, ça serait un rôle très proche à zéro. Et en fait, il y a des gens parfois qui se fâchent qu'on a cette rôle-là. Mais bon, on peut aussi s'imaginer qu'il est peut-être zéro. On peut le mettre là, de toute façon. Ça fait plus complet l'analyse mathématique. Mais si vous aimez pas rho, vous pouvez toujours vous soulager en pensant que ça peut être zéro. Et l'analyse, ça continue. De toute façon, les mêmes formules. Donc, peut-être rho est zéro. Même si rho est zéro, il y a une raison pour actualiser. Et c'est ça que je vais expliquer maintenant. Et la raison fondamentale, c'est que l'utilité, la fonction d'utilité, a une courbure. Ce n'est pas tout simplement une fonction linéaire. Si vous êtes dans une fête chez des copains, vous voyez beaucoup, là c'est un billet de suédoise, c'est plus ou moins 50 euros. Si vous voyez beaucoup de billets comme ça sur le plancher, sur le sol, vous savez que les amis sont dans une situation très aisée économiquement. Parce que c'est juste les très riches qui ne se préoccupent pas pour trouver les billets sur le sol. Les riches, donc, qui ont beaucoup de consommation, l'utilité, ça augmente si on leur donne plus d'argent, mais ça augmente plus lentement. Et, je vais juste. Voilà. Et, donc, cette courbure, ça implique une certaine aversion à l'inéquité. Donc, s'il y a une personne qui a un revenu bas et une autre qui a un revenu plus élevé, nous préférons qu'il y ait deux personnes qui ont le niveau de consommation ou de revenu M qu'une personne ici et une personne là. Ça implique aussi une aversion au risque. On peut imaginer que le taux de revenu qu'il est très incertain. Et donc, nous préférons en général 2 ans d'un revenu stable M qu'une année à voie Z, mais une autre année à voie X. Et vous voyez, c'est tout dû à que, comme je disais ici, les riches ne se soucient pas autant de l'argent. Mais nous, on va nous intéresser à juste la courbure ici. À quel rythme, à quelle vélocité est-ce que ça change l'appréciation de l'argent quand on devient plus riche? Donc, revenons pour un instant à Rho. Juste la première raison pour l'actualisation. Donc, si il y a un projet qui nous donne 1 million chaque année pour une région, pour une entreprise, pour une personne même, 1 million c'est peut-être trop là, mais chaque année ça nous donne quelque chose. Donc il y a déjà l'appréciation de ce projet et le plus important, c'est l'utilité marginale, c'est 2 million aujourd'hui, c'est 1 million. Mais les années dans l'avenir, d'un million dans l'année 2030, c'est déjà moins important pour la raison Rho. C'est-à-dire que l'actualisation pour les raisons d'utilité. Mais en plus de cela, nous serons plus riches. Bon, si nous croyons, c'est souvent, en fait, c'est une question, c'est une présupposé très important. Si nous croyons qu'on sera plus riche dans l'avenir, que la croissance que nous avons connue dans les derniers 200 ans en Europe en général, et en fait dans beaucoup de pays, si ça continue, il y aurait 2 raisons. Et l'utilité marginale de ce projet qui donne 1 000 ou 1 million chaque année, ça devient moins important chaque année pour 2 raisons. D'abord parce que nous serons plus riches et deuxièmement parce que l'avenir de toute façon n'est pas aussi important que le présent. On peut considérer aussi un cas, disons, dans le temps discret, des différentes années, un avenir, 2016, 17, 18, 19. On va juste prendre 2 années, 2020 et 2021. On peut les isoler, on peut dire que tout le reste, c'est le même, l'histoire ou l'avenir plutôt. Mais on peut changer, on peut bouger 100 $ de consommation de l'année 2020 à 2021. Est-ce que c'est bien ou non? Bon, et ça dépend en fait de la courbure les possibilités de production dans l'économie, les possibilités en fait d'investir 100 $ dans l'année 2020 et qu'est-ce que ça rend dans l'année 2021 et de la fonction de différence ou d'utilité, c'est réflexion de nos préférences. Et c'est la tangent ici, c'est ça reflète juste le point d'entrée, c'est l'utilité marginale de consommation et le taux de changement dans le temps de cette utilité marginale. On va bouger 100 dollars. Vous ne l'aurez pas dans l'année 2020, vous l'aurez, c'est comme si on avait un fromage. On me quitte mon fromage aujourd'hui, on me dit, ben, vous l'aurez dans 2 semaines. Bon, la question c'est mon utilité marginale de ce fromage, comment est-ce qu'il change avec le temps? Tout cela, c'est une manière donc de dire... À montrer que le sujet d'entrée ici, c'est comment on change dans le temps l'utilité marginale de consommation. Donc on est intéressé du taux de changement de l'utilité marginale. C'est en fait un deuxième dérivé, qu'est-ce qu'on dit, dérivé seconde, de l'utilité. Comment on change dans le temps l'utilité marginale, et c'est divisé encore par l'utilité marginale parce que c'est un taux de changement, taux de croissance dans le temps. Pour ceux qui n'aiment pas les maths, il reste encore juste 4-5 minutes. Je sais pas que ça peut varier. Je sais que ça varie beaucoup entre les gens. Donc, je voulais demeurer là un instant pour expliquer ce que nous cherchons. Parce que si on sait cela, après on peut toujours demander à quelqu'un qui sait prendre les dérivés secondes. C'est pas si difficile pour, si on sait ce qu'on cherche. Donc, nous voulons calculer ceci, c'est le taux de changement de cette utilité marginale. Et ici, je regarde le dérivé. Ça, c'est en fait c'est le deuxième dérivé multiplié par le changement de consommation dans le temps. Là, c'est le taux de changement de consommation dans le temps. Et cela, je peux le ici je juste pour le faire un peu plus élégant, je vais multiplier une fois par consommation, diviser encore une fois par consommation. C'est juste pour avoir deux termes ici que je vais expliquer un peu plus. Ici, c'est taux de croissance dans l'économie. C'est G. Et l'autre partie ici, celle-là, c'est la courbure. Je vais l'appeler alpha. C'est souvent, ça s'appelle alpha ou gamma parfois dans la littérature. C'est la courbure de la fonction d'utilité. On peut aussi l'appeler l'élasticité de l'utilité marginale. Donc, on est arrivé, en fait, là, c'est... excusez-moi, je me suis trouvé. Là, il y a deux raisons, deux parties. Le taux d'actualisation, c'est connu comme la formule de Ramsey. Ramsey, c'est un économiste qui a pensé à cela. C'est donc, il y a le taux d'actualisation qui est dû seulement à notre impatience, peut-être au risque d'extinction de vie sur Terre ou d'autres facteurs, qui peut-être est zéro. Et en plus, il y a ce terme qui est réflexion de la courbure de la fonction d'utilité, et que je dis ici, c'est en fait, c'est alpha multiplié par G, c'est-à-dire c'est le taux de croissance, et alpha ça pourrait être 1, et rho ça peut être 0, et donc on aurait ce que j'ai dit au départ, que si on est 5 fois plus riche, le coût c'est un cinquième C'est le cas le plus simple. Et en fait, ça démontre qu'en effet, G, c'est le facteur le plus important ici. Voilà. Cela, tout cela, c'est en effet ce qu'on apprend, c'est la théorie standard. C'est déjà connu depuis longtemps, c'est ce qu'on apprend à l'université sur la motivation de taux d'actualisation. Mais maintenant, donc, on est confronté quand même, on va chez le ministère de l'Environnement ou des autres ministères qui s'occupent de faire des constructions, des ponts ou des autres grands projets. Et on leur demande quel taux d'utilisation est-ce que vous avez. Bon, ils disent 5%. D'où est-ce que ça vient? Bon. Ça pourrait être que rho, c'est 1% et que le taux de croissance espéré est 2,5 ou 2% et alpha, c'est aussi 2. Donc, ça peut se motiver comme ça. Mais, donc, c'est ici, c'est maintenant que la recherche des arguments commence. Et nous, qui voulons prendre au sérieux les dégâts, les coûts dans l'avenir, par exemple du changement climatique, nous qui pensons que si on détruit pour toujours les corails dans la mer ou l'Amazonie, que c'est quelque chose de terrible, même si ça vient dans 100 ans. Donc, nous avons un intérêt, pour le dire tout simplement, à démontrer que le taux d'actualisation est bas. Donc, nous cherchons des arguments un peu pour... Et ça peut être une des arguments les plus évidents, ça peut être que nous ne croyons pas qu'il y aura de la croissance continue dans l'avenir. Si vous regardez encore une fois la formule ici, le taux de croissance, qu'est-ce qui se passerait, par exemple, si on aura de la décroissance? C'est-à-dire que l'avenir va être plus pauvre qu'aujourd'hui, qu'on va tous perdre des richesses et de la bonne vie que nous connaissons pour les différentes raisons, soit des guerres, soit des catastrophes, soit des épidémies, je ne sais pas. C'est possible, c'est pensable que l'avenir soit en effet effectivement un scénario assez négatif et que le PIB en 20 ans va être la moitié de ce qu'il est maintenant. On ne veut pas peut-être y penser, mais c'est pensable. Donc, dans ces cas-là, peut-être le taux de croissance est moins 5%. Qu'est-ce que ça implique pour le taux d'actualisation? Cela, c'est proche à zéro. Ça veut dire que le taux d'actualisation va être négatif. Si nous avons un coût d'1 million dans 20 ans, ça sera pire que l'avoir aujourd'hui. Parce que en 20 ans, nous serons plus pauvres. Donc, un coût d'1 million dans 20 ans, c'est quelque chose de mauvais, on devrait pas le faire, on devrait calculer que c'est quand même, c'est comme si c'était un coût de 2 millions. S'il n'y a pas de croissance du tout, par exemple, si on va vivre une économie tout à fait stable dans l'avenir, ça veut dire qu'il n'y a presque pas d'actualisation. Alors, c'est question, qu'est-ce que vous croyez de l'avenir? J'ai écrit un article avec un ami, Christian Hazard, déjà il y a 20 ans, en fait, où on a eu une espèce de débat avec Nordhaus, que Nordhaus est l'économiste le plus connu, disons, dans le monde sur le changement climatique. Et selon lui, le changement climatique, c'est un problème, mais un tout petit problème, grâce à l'actualisation, en fait. C'est-à-dire que c'est un problème dans l'avenir. Nordhaus utilise un taux d'actualisation tout à fait conventionnel. Donc, le problème, plus ou moins, devient un problème très petit. À part cela, il a écrit des articles, des beaux articles. Beaucoup de beaux articles. Mais toujours disons que oui, c'est un problème, mais c'est un problème pas si grand. Donc, voilà, revenons sur ce taux d'actualisation. Si ici, un exemple, si on croit que alpha c'est 1,5 et rho c'est 1% et le taux de croissance c'est 2,5, donc le taux d'actualisation serait presque 5%. Mais si nous, on a supposé qu'il y aura de la croissance de 3%, jusqu'à un temps où le monde sera 10 fois plus riche, après cela, il n'y aura pas de croissance. On ne peut pas savoir, mais c'est juste un présupposé. Donc on a dit, oui, bon, nous, on croit qu'il y aura de la croissance jusqu'à tout le monde soit 10 fois plus riche, ou le monde soit 10 fois, le PIB futur du monde est 10 fois plus grand. Après cela, il n'y aura plus de croissance. Cela implique que le taux d'actualisation va d'abord être environ 5% et après ça va tomber à presque zéro. Et le résultat de ces présupposés, ça devient un peu compliqué en fait, mais c'est que le taux marginal d'émission, ceci c'est un chiffre tout à fait central dans le débat. Qu'est-ce qu'est le coût marginal d'une émission de CO2? Ça s'appelle en anglais souvent « the social cost of carbon ». Ça serait en fait la valeur d'une taxe. Si on avait une taxe, le taxe devait être juste le coût social marginal d'une émission de CO2. Et dans l'analyse de Nordhaus, c'était 5 dollars. Donc, le taxe optimal, ça serait de 5 dollars. Et nous, on a démontré que, bon, ça dépend. Ça dépend d'alpha. Là, on l'appelait gamma, mais c'est le même. C'est donc cette élasticité de l'utilité marginale. Ça dépend aussi de l'équité dans le monde, ça devient un peu compliqué, mais dans beaucoup de scénarios ici, de toute façon, le coût social, le taxe optimal, c'est plutôt dans les centaines de dollars que 5 dollars. Et la raison de cela, c'est juste de que nous croyons dans cet article, ou que nous supposons qu'il n'y aura pas une croissance éterne, et que dans 100 ans, on ne sera pas des millions de fois plus riches, sinon que seulement 10 fois, et jamais plus que cela. Donc l'effet de supposer une décroissance est énorme. Si nous croyons que la croissance ne va pas être éterne, et qu'on ne peut pas être n'importe combien de fois plus riche qu'aujourd'hui, ça implique que nous devons prendre beaucoup plus sérieusement le changement climatique. Parce que, en fait, ce que nous allons faire, c'est noyer des gens au Bangladesh, par exemple, et aussi à New York, et à Londres, et Hollande. Et la question, c'est, bon, on noie des milliers de personnes où ils doivent déménager. Ce sont des coûts. Et combien est-ce qu'on valorise ça aujourd'hui? à notre avis, on devrait le prendre plus sérieusement parce qu'on ne sera pas des milliers de fois plus riches dans l'avenir. On sera, et surtout au Bangladesh, ils seront toujours assez pauvres dans l'avenir. Et donc, on le prend plus sérieusement. Cela implique que chaque tonne que nous émettons aujourd'hui devrait être taxée à des centaines de dollars plutôt qu'à 5 dollars. C'est la conclusion. Donc, on peut discuter. Est-ce qu'il y a des limites à la croissance? Il y a des gens qui disent clairement que oui. Que la planète... En fait, j'ai rencontré souvent les biologues et les physiciens. Ils disent que c'est assez évident quand même. La Terre est limitée. On ne peut pas avoir... Et les biologues m'ont dit, je fais des cultivations, par exemple, de bactéries. Ça commence avec quelques bactéries, ça augmente exponentiellement. Mais après quelques temps, la nourriture, le sucre, ce qu'il y a là, s'est épuisé et le nombre de bactéries, ça cesse d'augmenter. Ah, c'est le même avec la Terre. On ne peut pas avoir une croissance éterne. Qu'est-ce que vous pensez? Êtes-vous d'accord? On a quelques-uns. Mais j'ai discuté cela avec une des personnes les plus admirables dans le monde, le prix Nobel d'économie le plus important, Kenneth Arrow. Il dit, mais clairement non. L'imagination humaine est sans limite. On peut toujours avoir des concerts plus belles. On peut avoir des jeux d'ordinateur plus drôles. On peut avoir des nouveaux produits et services que nous ne pouvons pas nous imaginer aujourd'hui, mais qui seront peut-être très drôles. Et qu'on va considérer très important dans l'avenir. Comme aujourd'hui, les gens considèrent très important le téléphone qui n'existait pas il y a une cinquantaine d'années, une trentaine d'années. Je veux que vous y pensiez, c'est pas des questions facile, mais là, c'est là que en fait, Roger et moi, nous avons eu un peu le même idée. On s'est dit, oui, bon, peut-être que les deux ont raison. Peut-être Kenneth Arrow a raison et peut-être aussi les biologues ont raison. Peut-être c'est en fait, on peut en effet avoir une croissance. Mais c'est... Bon, c'est deux aspects. D'abord, c'est pas certain. Et de l'autre côté, c'est une croissance inégale. S'il y a une croissance éterne, disons pour 1000 ans au moins, et il faut que ce soit juste des nouveaux produits, des concerts plus beaux et des jeux d'ordinateur plus drôles. Ça ne peut pas être de croissance de la production de ciment. Ça ne peut pas continuer à croître à 1000 ans. C'est pas possible, parce que là, il y a juste le mécanisme de que la Terre est quand même limitée. Donc, je vais vous parler de deux articles là. Un article que j'ai écrit avec beaucoup d'économistes, là, européennes et américaines, et sur l'aspect de la croissance, l'incertitude de la croissance. Et si nous avons une croissance dans l'avenir qui n'est pas certaine, ça a des implications, là, encore une fois, un peu mathématiques, mais c'est que si, par exemple, parfois on a 1% de croissance et parfois 7%, si vous voulez faire le calcul à la maison, vous voyez que parfois 1%, parfois 7%, c'est plus ou moins 4%, mais ce n'est pas exactement le même que 4%. C'est juste un petit détail mathématique, en fait. Mais si vous avez chaque deuxième année 1% et chaque deuxième 7%, le moyen, dans le court terme, c'est plus ou moins 4%. Mais si on fait 400 ans de cela, ce n'est pas du tout un moyen de 4%. Et en effet, c'est calculé ici. Si on a 50% de probabilité de 1% et 50% de probabilité de 7%, l'équivalent, ce n'est pas 4%, c'est l'équivalent de 3,9 sur une période d'une année. Mais sur une période de des centaines d'années, l'équivalent de cette annuité est beaucoup plus proche de 1% que de 4%. Cela, on peut vite le démontrer avec un petit exercice Excel que vous pouvez faire. Ceux qui veulent, c'est simple. Cela veut dire que si on a une incertitude sur la croissance, le taux d'actualisation va baisser avec le temps. Et donc, nous devons. On a cru avant que ça serait illogique d'avoir des taux de croissance différents dans le temps. Mais en effet, c'est tout à fait le contraire. C'est correct, mathématiquement correct. Donc, souvent, ça n'a pas d'intérêt parce que beaucoup des projets que nous considérons sont de toute façon de 20-30 ans. Mais si on a un projet de 500 ans, c'est une grande importance et que le taux d'actualisation, en fait, pour les coûts qui sont en 20 ans, ils doivent être actualisés peut-être avec 3%. Mais les coûts qui sont à 200 ans, ils doivent être actualisés donc avec un taux d'actualisation qui diminue dans le temps. Cela, c'est important pour ceux qui pensent que c'est important de sauver les conditions écologiques pour des centaines d'années dans l'avenir. Ça veut dire que les siècles à venir sont quand même importants dans le calcul. Et donc, les taux d'actualisation ne doivent pas être constants, ils doivent plutôt décroître, comme cela. Dire exactement comment ils doivent diminuer, ce n'est pas facile. Mais le principe est déjà prouvé, disons, qu'il doit diminuer. Maintenant, je viens à la troisième partie, donc c'est le taux de croissance inégal. Et donc, si on aura de croissance éterne, nous croyons que ça implique une croissance dans quelques secteurs, par exemple la production des jeux d'ordinateur. Ça peut continuer à croître n'importe combien. Mais les expériences de regarder les récifs de corail, ça va plutôt avoir une croissance négative parce que les récifs de corail vont disparaître. Donc il y aura les changements dans les choses qui ne vont pas croître, l'écologie par exemple, les écosystèmes, ça va devenir de plus en plus important, ça aura une appréciation de prix, ou on peut dire qu'un taux d'actualisation moins élevé. On peut l'illustrer là, on voit que historiquement, les propriétés dans le centre de Londres, ils sont chaque année, ils sont plus valables, ils vaut plus cher, à un rythme plus élevé qu'en Écosse. Donc, ça veut dire que Noailles-Londres, ça va être cher. Je vais prendre encore un exemple sur les prix relatifs. Je crois qu'à Paris, il y a 100 ans, il y avait un pourcentage, quelques pourcents, je ne sais pas, mais j'ai mis 10% là à New York, je ne sais pas à Paris, mais il y avait une, qu'est-ce qu'on appelle ça, une bonne, une servante, bonne,
servante.
Et les revenus, ils augmentent. Depuis une centaine d'années, ils augmentent chaque année. Donc, combien de pourcents ont une bonne aujourd'hui? Ça devrait augmenter, n'est-ce pas? Mais c'est le contraire. Ça a diminué. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas tous avoir des bonnes? Bon, vous voyez, c'est qu'en effet, le prix, le salaire des bonnes s'augmente aussi vite ou peut-être plus vite que le revenu moyen. C'est une illustration qu'on ne peut pas toujours avoir plus de quelque chose parce qu'on devient plus riche, parce que parfois les coûts s'augmentent au même rythme que le revenu. C'est parce que les coûts sont revenus, en fait. C'est le salaire. Le prix de la bonne, c'est une fonction de revenu. Donc, si le revenu augmente, on ne peut pas avoir plus de bonnes. L'agriculture, c'est un autre exemple. Apparemment, maintenant, l'agriculture, c'est 24% du PIB mondial. Alors, si on perd 1% grâce au changement climatique de l'agriculture, qu'est-ce que ça vaut? Bon, 1% multiplié par 24%, c'est 0,24% du PIB. C'est un bon calcul. Alors, si on perd 95% de l'agriculture, c'est équivalent à 23% du PIB. Ben non. Et pourquoi pas? Pourquoi ce n'est pas correct, ce calcul? C'est parce que si cela arrive, si cela arrivait, le prix relatif de la nourriture qui reste augmenterait énormément. Alors, vous voyez que les prix relatifs sont liés à les taux relatifs de croissance. S'il y a une croissance très grande, de plus en plus d'ordinateurs et téléphones, et de moins en moins de l'expérience de la plaisance de la campagne, donc la plaisance de la campagne va avoir un prix relatif qui augmente, et les prix de l'ordinateur. On aura tellement d'ordinateurs que si on en perd quelques-uns, ça ne fait rien parce que la valeur sera très, très petite. Et dans l'avenir, il y a beaucoup de choses. Moi, par exemple, je trouve très triste qu'on va perdre la neige. J'aime beaucoup faire le ski. Mais il y a des problèmes encore plus graves parce qu'en Afrique, on va peut-être perdre de l'eau. Et de l'ombre, et de la faune, et beaucoup d'autres choses. Bon, c'est un résumé. Et oui, voilà, et là, donc, résumé, et donc ici, c'est le moment où je vais laisser la parole à Roger, mais il y a encore 5 minutes si vous voulez faire des questions, mais... Roger va parler un peu de ce qui se passe quand il y a deux secteurs, quand il y a donc une croissance inégale, et comment doit-on penser un peu. Et c'est là que je termine et voici, il y a juste, il y a temps pour une question.